Alors, on continue avec notre bel épître aux Romains. Et puis, on va en utiliser un petit bout. Mais on va lire à partir du verset 14 dans le chapitre 10. Mais comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru en lui? Et comment croiront-ils en lui s'ils ne l'ont pas entendu? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne pour le leur annoncer? Et comment y aura-t-il des gens pour l'annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Aussi est-il dit dans l'Écriture qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais malheureusement, tous n'ont pas obéi à cette bonne nouvelle. Ésaïe déjà demandait: Seigneur, qui a cru à notre message? Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Je vais m'arrêter là et vous expliquer qu'en fait, on va utiliser ce verset dans un autre sens que son vrai sens. Non, pourquoi je dis ça? En général, ce texte, vous l'avez sûrement déjà entendu pour parler des missionnaires, hein? Ah, qui sont beaux les pieds de ceux qui parlent annoncer la bonne nouvelle. C'est pas de ça que parle le texte dans son premier sens. Paul parle ici de l'évangélisation du peuple juif qui n'a pas voulu recevoir Christ comme le Messie, hein? Et c'est le sens premier de ce texte. Mais pour ça, il aurait fallu vraiment, on ne pouvait pas détacher le chapitre 9 du chapitre 10, du chapitre 11 et étudier toute l'histoire du rapport d'Israël avec l'Église, toutes ces choses-là. C'est honnêtement pas faisable un dimanche matin dans le temps que nous avons. Mais c'est quand même important de savoir que ce passage qu'on utilise tout le temps dans ce sens-là, même si c'est pas faux, c'est une application qui est correcte, c'est pas le premier sens, hein. Ça parle vraiment du fait que Christ est annoncé aux Juifs, et puis qu'en tout cas, ben, dans sa première venue, quand il est venu, ils l'ont pas reçu. Mais bien sûr, il y a une application pour nous, sinon ça serait pas dans la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, nous qui ne sommes pas nés Juifs, mais païens entre les païens, et qui avons rencontré Jésus-Christ, justement, entre autres, pour défier le peuple choisi par Dieu, qui eux sont passés à côté. Et on va voir ensemble comment, en fait, ce texte est très 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 important pour nous, de façon concrète là maintenant, pour nos vies de chrétiens, parce que ici Paul décortique la façon dont la foi vivante fonctionne dans un croyant. Et ça, c'est très très important. Excusez-moi. Vous savez que je répète souvent, mais tout ce que Dieu fait est vivant. Hein. Les hommes fabriquent des choses qui ne sont pas vivantes, à part quand on se reproduit nous-mêmes. Mais ça, c'est parce que Dieu nous a créés comme ça. Hein. Philippe a fait ce magnifique pupitre, il est très beau, mais même s'il reste très longtemps là, et même si on met un autre pupitre à côté, ils ne vont pas en faire d'autres ensemble. Ils ne vont pas se multiplier. Ils ne sont pas vivants. Hein. L'arbre duquel a été tiré ce bois était vivant. Et lui, il se reproduit, il se multiplie dans un processus de vie. Tout ce que Dieu fait donc est vivant. Ça veut dire que ça naît, ça se développe, et avant de naître, ça doit être conçu, et puis ça grandit. Dans certains cas, ça meurt, et certaines choses que Dieu a créées, sont créées pour ne pas mourir. Entre autres, notre âme et la partie matérielle de l'homme. Hein. Donc, la foi. Et le processus de la foi, le processus de croissance avec Dieu est un processus vivant. Et c'est pour ça que pour en parler, on ne peut pas l'illustrer par des choses mortes. Hier matin, on était peu nombreux, mais on a eu un très très bon moment sur le thème de la méditation. Et c'était court pour essayer de présenter ce sujet. Ça sera entre autres un des sujets qu'abordera notre invité Pierre-Yves Zwalen au week-end d'église. Mais ce qu'on a essayé de voir justement, c'est comment on peut passer d'une information sur Dieu à de la nourriture spirituelle qui fait que nos vies sont transformées par Dieu dans une relation avec lui. Et c'est aussi de cela que nous parle ce texte ce matin. Alors, on va le prendre tranquillement. Les versets 14 et 15 nous parlent d'un processus, hein. Il est dit, comment feront-ils appel à lui s'ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu? Comment entendront-ils s'il n'y a personne pour leur annoncer? Comment y aura-t-il des gens pour annoncer s'ils ne sont pas envoyés? Bon, elle est partie de la fin pour arriver au début. Hein. Si on remettait ça dans l'autre sens, ben, comment nous pouvons croire ? Il a fallu qu'on entende. Comment on a entendu ? Ben, parce qu'il y a des gens qui nous ont parlé. Pourquoi ils nous ont parlé ? Parce qu'ils ont été envoyés. Ça nous parle du principe de transmission. Comme je l'ai dit, tout ce qui est vivant se reproduit. Nous sommes ici parce que des êtres humains ont décidé de se rapprocher et ont donné la vie à d'autres êtres humains, nous. Hein. Et certains d'entre nous avons fait la même chose et on a des enfants, et etc. etc. Si il n'y a pas transmission, la vie s'arrête. Dans le processus de la vie avec Dieu, ben pour nous, on pourrait dire que le messager qui est venu nous porter la vie, au-delà de tout, c'était Christ dans l'incarnation. Hein. Et parce que nous l'avons reçu, enfin, parce que des croyants avant nous l'ont reçu, leur vie a été fécondée par la parole de Dieu. Ils ont reçu cette semence que Christ était venu apporter et ils l'ont vécu et transmis à d'autres, qui l'ont transmis à d'autres, qui nous l'ont transmis. Hein. C'est pour ça que on ne parle pas ici de la forme. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut monter sur un tonneau dans la rue pour prêcher, parler avec son voisin, peu importe la manière, mais nous sommes tous appelés, si nous sommes vivants de la vie de Dieu, à transmettre la vie, parce que c'est un des principes que Dieu a voulu, hein, ce qui est vivant se multiplie et redonne la vie plus loin. Mais ça ne se fera pas tout seul, hein. S'il n'y a pas intention, ça ne se fait pas. Je ne vais pas vous faire un cours dans le détail, mais les enfants ne viennent pas tout seuls. Il faut quand même qu'il y ait certaines choses qui se passent. Il faut qu'il y ait un accouplement et puis qu'il y ait une nouvelle vie qui soit mise ensemble par fécondation. Dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Donc, je ne vais pas développer cette partie-là, mais c'est pour ça que c'est très important pour nous d'avoir des vies intentionnelles dans la transmission. Et plutôt que de parler longtemps de ça, j'aimerais, elle va m'aimer encore plus, j'en suis sûr, demander à Geneviève de venir ici nous lire un très beau texte qu'elle m'a envoyé et qu'ils ont utilisé, si je ne me trompe, le mercredi dans leur moment de partage, c'est ça ? Voilà, je l'ai imprimé même un peu gros et je te laisse nous le lire.
Il m'avait demandé de le partager, de le lire, ben... Vas-y, hein. Alors, c'est un livre de David Platt. Ça s'appelle Radical. Donc, je vais vous lire cet extrait. C'est récepteur ou transmetteur. Aller et baptiser sont deux choses absolument cruciales pour faire des disciples. Mais cela implique également quelque chose d'aussi important, c'est l'enseignement. C'est une activité à laquelle nous devrions tous prendre part, ce qui comblera le dessein de Dieu pour nos vies. Dans nos relations les uns avec les autres, nous sommes continuellement invités à nous enseigner la parole de Dieu les uns aux autres. Lorsque nous entendons Jésus parler de l'enseignement, notre imagination ne devrait pas immédiatement nous faire penser à une école, comme on le pense souvent lorsqu'on parle d'enseigner la parole. Les salles de classe et les lectures ont leur place, mais ce ne sont pas les moyens d'enseignement prédominants que Jésus utilise dans ses relations avec ses disciples. Au contraire, le monde était un perpétuel sujet de leçons pour Jésus et ses disciples. Il saisissait chaque occasion pour enseigner. Ceci est particulièrement important lorsque nous considérons le commandement de Jésus « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Lorsque nous pensons à l'enseignement, nous concluons souvent que cela ne s'adresse pas à tout le monde. L'Écriture parle clairement d'un don spirituel pour l'enseignement et identifie des rôles de leader liés à l'enseignement de la parole de Dieu. Nous supposons donc que cette tâche est réservée à quelques personnes seulement. Alors que nous devrions reconnaître et soutenir les enseignants doués, donnés par Dieu à l'Église, Jésus nous demande à tous d'envisager un rôle dans l'enseignement afin de faire des disciples. Par exemple, imaginez que vous allez et que vous conduisez quelqu'un à la foi en Christ. Cette personne se fait ensuite baptiser par identification à Christ et son Église. Et maintenant, comment va-t-elle apprendre à marcher avec Christ tous les jours? Si l'enseignement est limité à quelques personnes équipées dans l'Église, nous allons directement dire à cette personne qu'elle doit rejoindre une école et écouter les enseignements d'un professeur. C'est ainsi que nous considérons aujourd'hui le faire des disciples. C'est très éloigné de ce que Jésus faisait. Pensez-y, quel serait le moyen le plus efficace d'apprendre à prier pour ce nouveau converti? L'inscrire à une classe d'une heure de prière par semaine ou l'inviter personnellement à vous rejoindre dans vos moments d'intimité avec Dieu? De la même façon, quel est le moyen le plus efficace pour ce nouveau converti pour apprendre à étudier la Bible? L'inscrire à la prochaine étude biblique disponible ou vous asseoir avec lui et partager votre expérience de l'étude biblique? C'est la beauté de faire des disciples. Lorsque nous prenons la responsabilité d'aider d'autres personnes à grandir en Christ, cela nous fait grandir dans notre relation avec Christ. Encore une page. Ça va? Vous suivez? Oui. Prenez l'exemple de Matt. Il est venu me poser toutes sortes de questions pour savoir comment partager l'évangile avec des collègues mormons. Il ne savait pas par où commencer. Je lui ai donné quelques tuyaux et Matt a commencé à étudier la différence entre l'évangile et la pensée des mormons. En même temps, il a commencé à partager l'évangile avec ses collègues mormons. Quelques semaines plus tard, il m'a envoyé un email dans lequel il disait « Parce que j'ai étudié que j'ai partagé l'évangile, je me sens plus fort et plus attaché à Christ que jamais. Ma femme a déjà remarqué une différence dans mon cheminement avec Christ et je loue Dieu de m'avoir accordé cette occasion de parler de lui. » Matt aurait pu dire « Je ne suis pas formé pour faire ce travail, quelqu'un d'autre le fera. » Mais il a pris la responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Je demande souvent aux membres de mon église s'ils sont des récepteurs ou des transmetteurs. Imaginez que vous êtes au Soudan, vous entrez dans une hutte au toit de chaume dans laquelle est réuni un petit groupe de pasteurs d'église et vous leur enseignez la parole de Dieu. Dès que vous commencez, vous perdez le contact visuel et vous ne voyez pas leurs yeux, parce qu'ils écrivent chaque parole que vous dites. Ils viennent vers vous ensuite et disent « Pasteur, nous allons reprendre tout ce que nous avons appris de la parole de Dieu, le traduire dans nos langues et l'enseigner à nos tribus. » Ils n'étaient pas là pour recevoir, mais pour transmettre. Maintenant, voyage avec moi jusque dans un lieu de culte habituel aux États-Unis. Quelques personnes ouvrent leur Bible, d'autres ne l'ont pas prise. Quelques personnes prennent des notes, mais la plupart des gens sont passivement assis dans la salle. Alors que quelques-unes ont perdu le fil, d'autres sont concentrées sur ce que dit le pasteur et elles essayent de voir comment cela peut s'appliquer dans leur vie. Mais en réalité, peu de gens écoutent pour pouvoir transmettre. Par nature, nous sommes des récepteurs. Même si nous désirons apprendre la parole de Dieu, nous sommes constamment centrés sur nous-mêmes pour nous demander « qu'est-ce que je peux retirer de cela ?» Mais ce n'est pas biblique. Si nous changeons la question lorsque nous nous réunissons pour partager la parole de Dieu en disant « Comment est-ce que je peux écouter ces paroles pour pouvoir ensuite les enseigner à d'autres ?» Cela change tout. Lorsque nous réalisons que nous avons la responsabilité d'enseigner la parole, cela change la façon dont nous écoutons les messages. Dans une culture où le plus grand, le plus tapageur est toujours considéré comme le plus efficace, Jésus nous montre comment consacrer complètement, humblement et patiemment nos vies aux gens. En réalité, vous ne pouvez partager de cette façon avec une grande quantité de personnes. Jésus ne l'a pas fait. Il a passé 3 ans avec 12 personnes. Si le Fils de Dieu a pensé qu'il était nécessaire de concentrer sa vie sur un petit groupe d'hommes, nous nous trompons nous-mêmes en pensant que nous pouvons faire des disciples en masse. Le but de Dieu en communiquant l'évangile au monde consiste en un processus lent, intentionnel, simple, qui inclut chacun de ses enfants, prêt à donner sa vie pour multiplier la vie de Christ dans les autres.
Voilà, donc je vais pas commenter le texte qui était déjà très clair en lui-même, mais je trouvais que ça développait, ça illustrait bien ces deux premiers versets sur comment entendront-ils s'ils ne sont pas envoyés, hein. Et puis c'est un défi pour chacun de nous. Je voudrais peut-être juste préciser que il faut pas mal comprendre à un moment ce qui est dit quand il dit on écoute pour nous-mêmes. On doit écouter pour nous-mêmes d'abord, hein. Donc c'est pas de ça qu'il parle. Simplement, on doit aussi se dire ce que j'ai reçu, comment je peux le transmettre. Mais c'est tout à fait bon, normal et utile de commencer par dire en quoi ça me parle à moi. Donc c'est pas, je trouve que la façon dont c'est formulé, on pourrait penser que c'est pas bien de faire ça. C'est pas ce qu'il veut dire, j'en suis persuadé. Et voilà, si vous voulez ce texte, vous pouvez l'avoir, on pourra le faire circuler, le méditer, c'est important, puis on reprendra ces idées-là plus tard. Et puis j'arrive donc au verset suivant, qui est le verset 17. La foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Dans ce petit verset, qui est fondamental, Paul explique, donc je l'ai dit là, c'était dans un contexte, mais on va l'appliquer au nôtre, comment les pensées de Dieu, qui sont des pensées vivantes, peuvent venir transformer nos vies. Quand on va arriver au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, hein, il va être parlé du renouvellement de l'intelligence par le travail de Dieu. On le développera plus tard. Mais on va voir le processus de vie qui fait que c'est possible. Je relis ça. La foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Lorsque Paul utilise le mot la foi ici, il ne parle pas juste de la capacité à croire que tous les êtres humains ont, hein, de naissance, je dirais, mais du contenu de la pensée de Dieu qui va venir faire partie de notre vie. Comme on en a parlé hier dans le moment sur la méditation, chaque mouvement d'église, à cause de son histoire, bon, on a tous des points forts et des lacunes. Dans le christianisme évangélique, un de nos problèmes, une de nos difficultés, c'est que, parce que on est issu du protestantisme, donc un retour à l'étude de la parole, on s'arrête souvent avant la fin du processus. On fait la première partie du travail, qui était essentielle. On prend le texte, on l'étudie avec des outils intellectuels que Dieu nous a donnés, normaux, hein, comprendre ce que l'auteur voulait dire à ceux à qui il parlait. C'est le point de départ. Malheureusement, trop souvent, quand on a fait ce travail-là et qu'on l'a compris, on a l'impression qu'on a terminé. Ah, ça y est, j'ai compris ce que ce passage. Et éventuellement, on ajoute, maintenant, à nous de le mettre en pratique. Hein. Et puis, on repart avec une chose à faire. C'est pas du tout de ça qu'il nous est parlé ici. Comment sommes-nous devenus des chrétiens ? Nous sommes nés de nouveau, la Bible dit. Qu'est-ce que c'est la nouvelle naissance ? C'est pas juste savoir que Dieu existe. Hein. Très souvent, nous faisons cette erreur quand nous voulons partager l'évangile justement avec des non-croyants. On est sur le terrain, est-ce que tu crois en Dieu ? Parce que nous sommes dans des sociétés aujourd'hui plutôt athées. Hein. Alors, le point pour nous qui nous paraît super important, c'est est-ce que tu crois en Dieu ? On connaît la célèbre phrase de l'apôtre Jacques, vous croyez en Dieu, mais les démons aussi croient en Dieu, ils en tremblent, hein, ils en ont peur. Croire en Dieu, c'est super, c'est une information de base. Si on n'a pas cette information-là que Dieu existe, qu'il est réel, qu'il est une personne, qu'il pense, qu'il a des idées précises, qu'il est créateur, qu'il est ci, qu'il est ça, s'il n'y a pas cette connaissance, il n'y a rien qui peut se faire. On est d'accord. Mais savoir ces choses-là ne fait pas de nous un enfant de Dieu. Même croire qu'elles sont vraies fait pas de nous un enfant de Dieu. Hein. Et c'est pour ça qu'on peut passer sa vie dans une église, savoir ces choses-là, et pas être un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui se passe pour que je devienne un enfant de Dieu ? Jésus n'a pas utilisé cette image enfant de Dieu par hasard. Hein. C'était le meilleur pédagogue qui ait jamais existé, le meilleur enseignant. S'il a utilisé l'expression enfant de Dieu, il n'a pas dit... gens qui connaissent l'existence de Dieu, les gens qui croient que Dieu est vrai, il a dit enfant. Et le mot utilisé, c'est le petit enfant qui vient de naître. Hein. Comment ça se passe ? Dans le domaine spirituel, et c'est là où on retourne à ce que j'ai dit au début, il y a eu une nouvelle vie. Hein. La pensée de Dieu est venue jusqu'à nous, donc par la connaissance au départ, mais nous avons consenti de façon un peu... difficile à déterminer, ça peut paraître mystique, hein, mais c'est une réalité, nous avons consenti à cette pensée de Dieu et elle est venue féconder notre vie par la foi et en nous s'est formé quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. C'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu et avec le temps et le mois et les années qui passent, mon comportement va évoluer, ma façon d'être va évoluer, qui je suis va évoluer, même si c'est des aspects de ma personnalité demeurent, parce que Dieu a voulu que je suis comme ça, que je sois comme ça. Hein. Et c'est ça, devenir un enfant de Dieu. C'est un mystère, mais qui nous est illustré dans le monde physique par ce qui se passe lorsqu'il y a accouplement, fécondation, et puis il y a une vie qui se développe. Un enfant de Dieu, c'est pas quelqu'un juste qui a appris des choses sur Dieu, c'est quelqu'un qui a été fécondé par la vie de Dieu, et Dieu est venu vivre en lui. C'est pour ça que Paul dit ailleurs, Christ en nous, hein, c'est l'espérance que nous avons, c'est pas juste nous croyons que Christ est venu, nous croyons qu'il est vrai, oui, mais Christ en nous. À un moment, j'ai accepté de soumettre ma volonté, de m'ouvrir, hein, de me laisser féconder par la pensée de Dieu, et ça a donné naissance à une nouvelle vie spirituelle en moi. Ça, c'est le point de départ. Si j'ai pas vécu cette chose-là, je suis pas un enfant de Dieu. Je crois peut-être en Dieu, peut-être je vais à l'église, j'ai une Bible, je la lis, je suis pas enfant de Dieu. Mais lorsque je suis devenu enfant de Dieu de cette façon-là, hein, ce que souvent les évangéliques appellent plus ou moins à tort la conversion, la conversion, c'est pas être enfant de Dieu, la conversion, ça veut dire faire un demi-tour. Hein. La conversion, c'est notre part. Parce que Dieu veut implanter sa vie en nous, mais pas par un viol. Dieu veut implanter sa vie en nous par mutuel consentement. Il nous dit, voilà, j'existe, je t'ai créé, je t'aime, tu es pécheur, c'est pas forcément, enfin, c'est pas du tout de ta faute au départ, puisque tu es né comme ça, par contre maintenant c'est ta faute parce que tu agis comme ça, et je te propose quelque chose de nouveau. Est-ce que tu veux que ma vie vienne féconder la tienne pour avoir une nouvelle vie, on pourrait dire une vie hybride entre la vie de Dieu et la vie humaine, et qui va être implantée en toi comme un embryon, et qui va se développer pour un jour donner un croyant mûr à la stature de Christ. Lorsque je dis oui, alors il y a cette relation intime qui se passe, et cette fécondation par la vie de Dieu en moi qui fait que maintenant je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que c'est irréversible, que je peux pas le perdre. Une croyance peut évoluer, peut changer. Je peux croire une chose, après je la crois plus. Je croyais que Napoléon existait, maintenant j'en suis plus sûr en lisant les textes d'histoire. Mais lorsqu'il y a eu fécondation et vie en nous, je peux plus perdre cette chose, d'autant que l'apôtre Pierre nous dit, nous avons été fécondés par une semence spirituelle qui ne peut mourir, ni se corrompre, ni se souiller. La parole de Christ. Et une fois que nous sommes passés par cette expérience de nouvelle naissance, nous sommes appelés à grandir. Mais comment nous allons grandir ? Ben, Paul le dit à plusieurs reprises, hein, comme vous avez reçu Christ, marchez en lui. Ça veut dire que le processus de vie qui s'est passé au moment de la nouvelle naissance doit se passer jour après jour, plusieurs fois par jour, ou tout au cours de nos vies. Et c'est la même façon, ça fonctionne pareil. La pensée de Dieu vient, alors la pensée de Dieu au départ, juste je l'entends, comment croiront-ils s'ils n'entendent pas ? Je l'entends, donc là on est dans la partie que nous on connaît bien. J'étudie la Bible et je découvre la pensée de Dieu. Ça apporte de la joie de découvrir la pensée de Dieu, de la comprendre. Hein, ça illumine l'intelligence, c'est extraordinaire. Mais si on s'arrête là, c'est dommage. Comme je disais hier, c'est un petit peu comme si je vais au marché, je fais des courses, je remplis mon frigo, et après je m'arrête là. Je dis, oh, j'ai fait les courses. Vous avez vu un peu ? Puis alors, regardez mon frigo. Hein. En haut, les laitages. Là, les 0%, là, les 15%, là, les 20%. Les légumes rouges, les bleus, les verts, les jaunes, la viande, les poissons. Et je suis content parce que mon frigo est propre, il est plein, je le vide, je le nettoie, je le mets en ordre. Et puis, il y a Dieu qui dit, hé, oh, super, quand c'est que tu manges ? Non, non, moi, je fais les courses et je range le frigo. Mais non, mais il faut manger. Non, non, mais moi, il y a encore plein de courses à faire. C'est vrai, hein, il faut manger. Et dans ce mystère de la communion avec Dieu, de la méditation, de la prière, de appeler ça comme vous voulez, moi je préfère l'appeler ma vie romantique avec Christ, hein, on va avoir des relations ensemble qui vont donner vie en moi, de la même façon qu'un jour je suis né de nouveau. Cette pensée de Dieu que j'ai été achetée au marché, classée dans mon réfrigérateur, il fallait faire ça, hein. On ne peut pas cuisiner si on n'a pas d'ingrédients. Si on n'a rien à manger, le meilleur cuisinier fera rien. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Maintenant, je dois l'assimiler. Comment ? Par la foi. Hein. La foi naît du message que l'on entend, et ce message, celui qui s'appuie sur la parole du Christ. Je suis désolé, mais cette expression-là ne parle pas de la Bible. Elle dit la parole du Christ. Le Christ, c'est le Messie. Hein. Le peuple d'Israël avait la Bible, l'Ancien Testament. Il croyait qu'elle était vraie. Il croyait en Dieu. Hein. Aucun des gens qui ont crucifié Jésus était athée. Ça n'existait pas. Ils étaient croyants en Dieu de tout leur cœur. Quelqu'un comme Paul, avant de rencontrer Christ, croyait en Dieu au point d'être prêt à mourir pour lui et surtout de faire mourir les autres. Mais il y croyait fermement. Hein. Et il croyait que chaque mot de l'Ancien Testament, il n'y avait pas le Nouveau, était inspiré. Mais il n'avait pas été vivifié par la parole du Christ. Ça s'est passé sur le chemin de Damas. Hein. Et là, il a découvert quelque chose de nouveau. C'est plus des choses sur Dieu, c'est Dieu que je rencontre avec lui. Hein. Et pour nous, en tant que croyants, c'est la même chose. Je peux connaître la doctrine de la paix de Dieu. Je peux l'expliquer. Alors, nous sommes en paix avec Dieu à cause de l'œuvre de Christ. Là, il a détruit le mur qui nous séparait. Là, je peux expliquer les versets, pourquoi, comment, toutes les illustrations dans l'Ancien Testament avec tel personnage qui était un type de cette doctrine-là. Et je peux expliquer tout ça. Est-ce que la paix de Dieu contrôle ma vie quand je suis dans les difficultés? Ça, c'est autre chose. Comment ça va se passer? Pas en disant, oh ben en tant que chrétien, je devrais être dans la paix. Et puis c'est à moi de le faire, maintenant que je l'ai compris, je dois l'appliquer dans ma vie, je veux rester en paix. Vous savez aussi bien que moi que ça, ça marche quand tout va bien. Mais quand tout va mal, se dire, je dois être en paix parce que je suis chrétien, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché. Mais pourtant, ça marche. Comment ? J'ai besoin que cette information qui est dans mon frigidaire spirituel, Dieu me donne la paix, j'ai besoin de la manger et qu'elle fasse partie de moi. J'ai besoin que cette pensée vienne en moi et parce que je l'accueille et que je consens, je ne veux pas paraître étrange ou vulgaire, mais je suis la partie féminine, je reçois la pensée de Dieu, elle vient en moi, je l'accepte et elle me féconde. Et je vais m'apercevoir que la paix de Dieu, pourquoi Paul parle de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ en Philippiens. Tout simplement parce que je connaissais des choses sur la paix dans mon intelligence, je pouvais l'expliquer aux autres, mais maintenant je suis dans une situation difficile et ma connaissance sur la paix ne m'apporte pas la paix. Mais cette communion par la foi avec Christ qui vient féconder quelque chose de nouveau en moi garde mon cœur dans la paix alors que mon intelligence ne comprend pas comment c'est possible parce que rien n'a changé autour de moi. La situation n'a pas changé, je ne sais toujours pas ce qui va se passer demain. Je devrais être complètement angoissé, paniqué et je m'aperçois qu'il y a une paix qui est venue prendre ma vie. Ce n'est pas facile, hein, mais je traverse cette épreuve dans la paix. Je me suis nourri de la parole de Dieu. Elle est devenue une partie de moi-même, pas une chose que je dois moi mettre en pratique. Vous voyez la différence ? Hein ? La nourriture, quand je mange, oui, ma part à moi, c'est je fais les courses, je cuisine, je prends la fourchette, je mets dans la bouche. Mais ce qui se passe après, est-ce que c'est un effort de votre part ? Ben oui, votre corps produit certaines choses, mais ce n'est pas vous qui dites il faut que j'assimile la nourriture, il faut que j'ai des calories, il faut que ça fasse... Non. Vous faites votre part, vous cuisinez, vous mangez, et puis allez faire une petite marche, une sieste pour digérer, j'en sais rien, prenez un café par-dessus. Ça va faire son travail. Hein. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Et c'est la raison pour laquelle, après, tout dans nos vies chrétiennes est artificiel. Parce que on apprend des choses sur Dieu, dans le meilleur des cas. Alors, attention, hein. Maintenant, on est tellement en mauvais état dans nos vies chrétiennes, dans nos églises, que la plupart des gens ne vont même pas apprendre des choses sur Dieu. Donc effectivement, là, ils meurent de faim, mais en plus le frigo est vide, il n'y a aucun espoir. Donc ne pensez pas que je suis en train de dire qu'il ne faut pas étudier. On va mourir de faim si on n'étudie pas la Bible. Je veux juste dire, ça ne suffit pas. On va étudier toujours plus, jusqu'à la fin de nos vies, on va étudier, parce qu'on fait tous les jours les courses pour aller manger. Hein. On n'aura jamais tout compris, on ne saura jamais tout. Donc oui, on va étudier, continuer toujours plus. Mais ensuite, on doit se dire, maintenant, j'ai besoin d'être nourri. Et j'ai besoin, pas juste de la Bible, le texte écrit, j'ai besoin de la parole de Christ et que par la foi, elle soit incorporée à ma vie pour créer quelque chose qui n'existe pas encore en moi et qui fait que je vais être dans la paix, je vais être patient, je vais avoir de l'espérance, je vais avoir de la compassion, je vais avoir les fruits de l'esprit. Autre image, hein. Les fruits de l'esprit, qu'est-ce que c'est un fruit ? Dans le monde végétal, c'est exactement la même chose, c'est l'équivalent. Un fruit, c'est toujours une fleur qui a été fécondée. Alors, si vous préférez vous voir en tant que fleur plutôt que en tant que personne féminine, aucun problème, l'image est là aussi. Hein. Mais c'est la même réalité. Les fruits de l'esprit, c'est pas, alors j'étudie la justice de Dieu et maintenant je dois être juste. J'étudie l'amour et je dois être amour. J'étudie la patience, je dois être patient. Mais alors, si c'était ça, qu'est-ce qu'on a de plus que le bouddhisme, que toutes ces autres religions qui sont très intelligentes, qui ont des super principes, qui ont une bonne éthique, et puis qui disent, vous avez compris, faites-le. Bon, on est pareil. Non, on a Christ. Christ est venu pour féconder nos vies par une nouvelle vie, faire de nous les enfants de Dieu, mélanger la génétique de Dieu avec la nôtre pour que nous soyons d'autres personnes. Pas des gens qui respectent juste les codes du christianisme, des gens qui sont en relation avec Dieu. Mais comme on disait hier, ça demande une relation personnelle. On ne fait pas des enfants par procuration. Bon, je sais qu'il y a les femmes porteuses, les mères porteuses, on ne va pas aborder ce sujet-là. Hein. Mais normalement, quand on a des enfants, on les fait nous-mêmes. On fait ça en direct. Hein. La difficulté, c'est que on aime bien avoir des intermédiaires. C'est drôle parce qu'on a quitté le catholicisme pour venir au protestantisme, la Bible seule. Et puis avant, il y avait le prêtre, et maintenant, il y a le pasteur ou l'enseignant. Hein. Lui, il connaît Dieu, lui, il connaît la Bible, lui, il étudie, on vient le dimanche matin et on l'écoute, lui. Pas de problème, des fois, on peut envoyer quelqu'un faire les courses pour nous, mais on ne peut pas avoir quelqu'un qui mange pour nous. Alors, c'est sympa que le dimanche matin, la personne qui parle ici vous ait préparé un repas. Ça vous évite de faire les courses. On va au resto le dimanche. C'est ça, un culte, hein. Le dimanche, on va au resto. Il y a quelqu'un d'autre qui s'est levé, qui a fait les courses, qui a choisi une recette, qui a cuisiné et qui amène le plat tout prêt, chaud. Mais même au restaurant, il vous faut manger. C'est pas le cuisinier qui mange pour vous. Lui, il mange aussi, j'espère, hein. D'accord? Donc, chaque jour de ma vie, à chaque moment, je dois me nourrir. Et ça veut dire que je dois m'approcher de Dieu sans intermédiaire. Pour laisser sa vie féconder la mienne, ça veut dire qu'il faut du temps. Je sais que ça peut aller assez vite pour faire un enfant, ça peut se faire en quelques minutes. C'est mieux si on prend le temps. Mais on a besoin de temps. Et ce qu'on appelle la méditation, la prière, hein, la communion avec Dieu, marcher avec Dieu, vivre avec lui, réfléchir avec lui, penser avec lui, mettez le vocabulaire que vous voulez. C'est de ça que ça parle. On prend du temps ensemble, pas pour faire des choses, pas pour... Calme. C'est tellement difficile dans la façon de vivre dans laquelle nous sommes éduqués aujourd'hui de plus en plus. Où il faut toujours avoir du résultat, faire, produire, pouvoir dire que j'ai... Juste s'arrêter et prendre un moment qui va apparemment rien produire. En réalité, ça va produire des choses extraordinaires. La vie de Dieu, sa parole, va venir féconder ma vie et je vais être transformé. D'accord ? Donc c'est vraiment quelque chose qui est très très important parce que c'est le... S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de vie chrétienne. On peut apprendre des choses sur Dieu, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut avoir des rituels, un rythme de vie, des activités, mais il n'y a rien. Ça, c'est la seule chose qui est indispensable. Tout le reste, c'est en plus. Quand je loue Dieu, c'est parce que cette vie qui a été mise en moi, qui s'est fécondée, elle se manifeste. Quand j'évangélise, comme on dit, c'est parce que cette vie que j'ai reçue, je veux la transmettre, comme on a entendu. Quand j'ai de la communion avec mes frères et sœurs, ce qu'on appelle la communion fraternelle, c'est parce que cette vie qui a été fécondée en moi, elle a une particularité, c'est qu'elle est activée et elle se multiplie quand elle est en contact de la vie de Dieu qui est en vous. C'est pour ça que ça me réjouit de venir ici le dimanche matin ou le samedi ou le mercredi ou ailleurs, n'importe où, quand je rencontre des hommes et des femmes qui, eux aussi, sont enfants de Dieu. Parce que cette vie qui est vivante en moi, quand elle reconnaît la vie de Dieu dans quelqu'un d'autre, elle est contente. elle se développe. C'est comme de la levure dans de l'eau tiède. C'est ça qui fait que nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, que nous avons sa vie. Alors ça fait beaucoup de choses à voir, j'arrête là, mais on va continuer avec ça. Seigneur, merci pour cette vie que tu as vie en nous. Merci parce que tu ne nous as pas demandé juste de croire des choses sur toi, mais de partager ta vie, de vivre avec toi, d'avoir une aventure avec toi, une relation, de te connaître. Merci parce que tu nous as donné les moyens de connaître ta pensée par la révélation de ta parole écrite. Tu nous as donné un esprit que tu as ramené à la vie. Tu nous as donné ton esprit pour que nous puissions comprendre. Et nous avons tout ce qui est nécessaire pour te connaître réellement, en toute intimité, en toute profondeur. Et nous te demandons que cette vie que tu as mis en nous grandisse, qu'elle soit réceptive, qu'elle soit encore fécondée par la foi, par tes pensées, pour se développer. Et je te prie que si ce matin ici, quelqu'un a jamais fait cette expérience personnelle d'être né de nouveau, d'être devenu ton enfant, que tu lui permettes de passer de cet état de quelqu'un qui sait des choses sur toi à quelqu'un qui te connaît. Fais ce miracle dans les cœurs ce matin si c'est nécessaire. Et continue de bénir nos relations, nos moments ensemble, ce repas pour ceux qui vont rester, cette projection cet après-midi. Que toutes ces choses-là soient là pour nourrir, encourager, développer, faire fructifier la vie que tu as mis en nous. Amen.